Matière à penser, Dominique Rousset.
Et la suite de notre série de cette semaine sur l'avenir du modèle dominant de l'économie mondialisée, objet de très nombreux débats et dont les sciences sociales aussi se sont emparées. Notre titre, le capitalisme, est-il soluble dans le 21e siècle? Notre invitée ce soir est sociologue, maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine, chercheuse à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. On le cite, ce sont des labos importants, IRISO. Elle a déjà publié les résultats de travaux remarqués à l'époque, objet de sa thèse sur l'essor en France du régime des auto-entrepreneurs. Et elle s'intéresse toujours aux formes nouvelles de travail indépendant, comme en atteste un nouvel ouvrage qui vient de paraître sous sa direction et celle de Dominique Méda, dénonçant un capitalisme, je cite, de plateforme, bien éloignée, selon elle, d'une prétendue indépendance des travailleurs concernés. Nous parlons donc ce soir des prolétaires 2.0. Bonsoir Sarah Abdelnour.
Bonsoir.
Et partons peut-être de ce premier travail que vous aviez fait, j'ai dit c'était le sujet de votre thèse, hein. Ça nous ramène à 2007-2008, l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on parle de la France ici, mais bien sûr nous allons élargir notre discussion à d'autres pays plus tard, faire de la France un pays d'entrepreneurs, on se souvient peut-être de cette formule choc. Et vous, vous dénoncez déjà l'origine un peu libérale de ces politiques mises en place par ce que vous citez, vous partez très fort, des opposants au modèle salarial. Car il en ressort qu'au-delà de cette autonomie recherchée, proposée, la promotion de l'auto-entrepreneuriat séduit, certes, mais fragilise aussi ce qu'elle tente.
Exactement, le projet de l'auto-entrepreneuriat qui donc a abouti en 2008 avec ce dispositif de l'auto-entrepreneur. Et on peut faire remonter un petit peu le fil historique de cette famille de pensée, de cette école à la fois un peu théorique et politique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le libéralisme, une forme de libéralisme à la française, mais qui est quand même assez largement inspiré du modèle américain, de la petite entreprise comme socle un petit peu d'un modèle social dans lequel on mise beaucoup sur l'individu, sa réussite individuelle, son épargne, son travail. Et c'est un petit peu comme ça que les tenants de ces politiques veulent forger un nouvel ordre social. Alors clairement, ce type de dispositif, les premières mesures d'incitation au travail indépendant, elles apparaissent à la fin des années 70, 76, avec Raymond Barre, un petit peu comme chef d'orchestre de ces nouvelles politiques économiques.
C'est intéressant de le rappeler parce qu'on l'avait un peu oublié.
Un dispositif s'appelait LACRE et qui s'appelle toujours LACRE. Il existe encore, l'aide
avec
aux chômeurs,
Alain Madelin,
créateurs et repreneurs d'entreprises. Et effectivement, on voit quand même une lignée très claire, un héritage politique assez clair à partir de ces premières mesures des années 70, puisque à chaque fois, il s'agit aussi de s'opposer à un autre modèle social. C'est-à-dire que à la faveur du chômage, on va lancer ces mesures, mais plus largement, ça vient nourrir un modèle de société qui s'oppose très largement au modèle prédominant depuis 45, modèle qui, tout en restant dans un système capitaliste, mais vient un peu le transformer, le modérer, s'y opposer. Alors certains, les théories s'opposent là-dessus, mais en tout cas un système capitaliste dans lequel il y a aussi un modèle de socialisation des ressources avec la sécurité sociale qui fonctionne, comme on le sait, par solidarité, avec des structures administratives qui viennent redistribuer à qui de droit, c'est-à-dire en fonction de ses besoins et non pas en fonction de ce qu'on a cotisé. Et donc, c'est un système qui permet aussi un peu plus d'égalité, un peu plus, je dis pas que c'est un système égalitaire.
Ouais. On peut remonter un peu plus loin, remontons jusqu'au 19e siècle, au fond, le droit du travail commence à se structurer, ça va nous amener à ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous appelez un peu, ce que les historiens d'ailleurs appellent la proto-industrialisation, mais comment à côté de ça, il y a quand même un système de protection, celui que vous mentionnez, qui se met en place.
Oui, le fil, il s'oppose au modèle de 45, parce que c'est vraiment celui-ci qu'ils ont... On peut dire quasiment en détestation, c'est-à-dire c'est un contre-modèle politique pour eux, vraiment, ce modèle de la sécurité sociale. Et les enquêtés, donc ça, c'est ce qui apparaît en 76 jusqu'en 2008. Moi, les personnes que je rencontre qui sont derrière le modèle de l'auto-entrepreneuriat sont toujours assez exaspérées par ce modèle de la grande entreprise, d'un secteur public fort, de socialisation d'une partie des revenus. Ils estiment que c'est un modèle qui est inefficace et puis qui ne leur convient pas presque philosophiquement. C'est-à-dire qu'ils souhaitent un autre modèle d'intégration sociale dans lequel les inégalités sont plus acceptées, dans lequel les efforts individuels seraient la clé de l'explication de la position de chacun, et ils s'opposent assez fortement à ce modèle. Après, évidemment, alors ce modèle modèle de 45, il n'est pas apparu ex nihilo en 45.
Voilà, il trouve ses origines
évidemment, en amont. Il est à la faveur aussi de l'après-guerre et d'un ensemble de conditions un peu spécifiques. C'est un modèle qui s'est beaucoup solidifié à partir de 45. Mais on a un fil historique qu'on peut tirer un petit peu plus loin, qui sont les premières formes de protection sociale des travailleurs, les premières formes aussi de reconnaissance de la responsabilité de l'employeur.
Au fil des luttes ouvrières, il faut le rappeler.
Au fil des luttes ouvrières, évidemment. Au fil de l'organisation des travailleurs au 19e siècle, un ensemble de rapports de force, plus ou moins locaux, plus ou moins nationaux, après, se structure. Et on a un ensemble de mesures assez importantes. Alors, au fil du 19e, ça va être surtout la réduction du temps de travail qui va un petit peu parsemer le 19e d'avancées sociales. Il y a la fameuse loi de 1898 sur les accidents du travail, qui sont un peu un premier temps fort de la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur, quand les travailleurs connaissent des situations dangereuses, difficiles, se blessent, se mutilent. Et voilà, ça va être les premiers temps. Après, les débuts de la protection sociale, ça se passe plutôt au niveau local, ça va plutôt être des caisses de solidarité entre travailleurs, et puis progressivement, ça va se structurer autour des acteurs syndicaux, autour de l'État aussi, qui prend sa part dans la protection sociale, dans la mise en place d'un droit du travail qui se solidifie, dans la mise en place des sécurités sociales qui vont aussi, depuis la fin du 19e jusqu'au 20e siècle, prendre place, se structurer, se développer.
Ce qui fait que le salariat est une position très désirable, finalement. Chacun espère y parvenir.
Ce qui fait, alors, cette longue histoire du salariat qu'a décrite Robert Castel, et ce grand changement...
Un grand sociologue qui est un de vos maîtres.
Oui, effectivement. Ça a été une lecture importante.
Ça se devine dans vos textes.
Au début de mon parcours, c'est un beau texte d'historien aussi, les métamorphoses de la question sociale, et qui permet de comprendre justement un peu cette énigme historique et je pense qu'il est encore importante à comprendre aujourd'hui pour mieux arriver à comprendre les débats aujourd'hui autour du salariat, de la fin du salariat. C'est-à-dire, il raconte comment le salariat est passé d'une condition indigne au 19e, puisque c'est la condition des prolétaires, c'est-à-dire une situation vraiment de travail vulnérable, payé à l'heure ou à la journée, avec pas de protection, et puis une asymétrie énorme, fondamentale entre le travailleur et puis le détenteur des moyens de production. Donc un modèle, en fait, qui ressemble un peu à ce que raconte Marx. Et Castel fait l'histoire, reprend un peu le fil, alors je sais pas s'il se disait totalement marxiste, mais...
Il montre comment progressivement les choses se sont organisées.
C'est ça, et comment finalement le salariat est devenu autre chose, puisqu'il passe de cette condition indigne à autre chose au fil des décennies, à savoir aussi le socle, au contraire, de formes de protection, de formes de non seulement de rémunération qui sont déjà plus encadrées, mais aussi un socle pour acquérir des droits au fil des décennies, c'est-à-dire les congés payés, le salaire minimum, en fait toutes les formes de déconnexion entre le travail immédiat et de la rémunération ou du statut. C'est un peu ça le saut fondamental qu'il décrit autour du Front populaire, c'est le fait que pendant les congés payés, maintenant ça nous semble relativement banal, mais en fait c'est un renversement de la pensée qui est énorme.
Ouais.
On peut ne plus travailler, être même loin de l'usine et continuer à être payé, à être protégé. Et c'est un peu cette histoire-là qui se déploie, alors qui reste limitée parce qu'on continue à beaucoup travailler dans nos sociétés, mais c'est quand même un peu cette histoire-là d'une possible déconnexion entre travail concret et puis du statut de la rémunération que décrit Castel et qui finalement s'est mise en place autour du salariat. Et qui disparaît aussi aujourd'hui en partie.
Et qui est en train de disparaître, une inversion totale même, puisque, à nouveau, si l'on ne travaille pas, on n'est pas protégé, on n'est pas payé, on va y venir dans le détail, notamment avec les travailleurs des applis, mais déjà les auto-entrepreneurs. Mm-hmm. Ce qui est très frappant, et vous en tout cas le mettez en avant, c'est au fond, j'allais dire presque la manière dont on a grugé, dont on a un peu raconté des histoires, dont on a construit un rêve, un mythe, en présentant l'affaire comme tout à fait bénéfique, comme une chance, comme une progression. Or, vous, très vite, vous dites, mais non, on a affaire à de nouveaux prolétaires. Mmh. Cet auto-entrepreneuriat, vous ne l'acceptez pas comme tel. Alors qu'il a souvent été bien accepté par les personnes concernées. Mmh. Mais elles se sont fait, on va être plus direct, avoir.
Alors, je pense en tout cas que les discours de promotion officielle méritent quand même largement d'être critiqués dans la mesure où... alors, il y a eu plusieurs versions heureuses mais je veux dire déjà dans les discours de promotion. Après, évidemment, on peut venir aussi à comment ces situations sont vécues par les auto-entrepreneurs eux-mêmes. Mais d'abord, sur les présentations positives, donc de la part des promoteurs, hein, de ces dispositifs, on a plusieurs phases qui seraient heureuses. Alors, que ce soit du cumul d'activités, alors ça semble un peu, du coup, des situations moins problématiques, c'est-à-dire on a des figures un peu typiques comme ça, l'étudiante qui fait des bijoux le week-end, la personne retraitée qui veut arrondir sa retraite, donc plutôt toujours des situations dans lesquelles la personne a quand même déjà un socle de protection ou un statut, voilà, on est étudiant, on est retraité, et puis on va faire ça un petit peu pour mettre du beurre dans les épinards. Alors ça, c'est présenté évidemment comme une phase plutôt qui pourrait sembler
positive,
satisfaisante, mais qui est quand même aussi déjà l'envers du décor, du fait qu'on ne mise plus du tout sur l'augmentation des salaires ou sur l'augmentation des revenus sociaux. On est tellement résigné par rapport à ça qu'on ne pense qu'à pouvoir augmenter soi-même son pouvoir d'achat. Alors, c'est toute la rhétorique du pouvoir d'achat qui était assez présente hein, pendant le mandat Sarkozy. C'est-à-dire que, à défaut de pouvoir obtenir une revalorisation des retraites ou des minima sociaux ou des salaires, on va plutôt chercher à arrondir soi-même ses revenus. Ou bien, l'autre phase d'ailleurs, c'est aussi demander à payer moins d'impôts, puisque vu qu'on ne peut plus avoir plus de revenus, on va essayer de limiter les prélèvements. Mais finalement, ça aussi, ça participe d'une même dynamique. Alors ça, c'est plutôt les travaux d'Alexis Spire qui sont éclairants sur cette question du rapport aux impôts et aux prélèvements sociaux. Donc il y a cette phase bénéfique-là, de petites activités d'appoint. Il y a l'autre phase qui serait permettre à des personnes plutôt dans des situations de chômage ou d'exclusion sociale de créer leur propre activité. Donc ça, ce sont les phases présentées par les promoteurs. Le problème, c'est qu'en fait, assez vite, quand on enquête, on se rend compte qu'il y a déjà une vraie illusion qui tombe, qui est le fait que les personnes entrent elles-mêmes dans des démarches de création d'activité. Puisqu'en fait, bon, ça semble être pourtant la base, hein, quand on est entrepreneur, donc là, micro ou auto-entrepreneur, la logique serait, voilà, on a une idée, une compétence, et puis on lance une activité économique indépendante pour valoriser cette compétence. Bon, ça semble être un peu altruisme.
Hein. En réalité, on leur propose d'être comme cela. C'est pas eux qui ont l'idée, c'est pas eux qui ont le projet au départ.
En réalité, quand on rencontre des personnes, alors moi je les ai rencontrées de manière
relativement... Oui, je précise que tout ce que vous nous dites là est à partir d'enquêtes. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, je peux dire effectivement en deux mots, c'est-à-dire que je les ai rencontrées moi à partir du répertoire des entreprises de l'INSEE, où on peut connaître quand même leur statut social. Donc j'ai rencontré des entreprises individuelles, et puis la plupart, vu l'explosion du régime de l'auto-entrepreneur à ce moment-là, la plupart étaient en auto-entrepreneur. Et quand on les rencontre comme ça, c'est-à-dire pas par de l'interconnaissance ou en ciblant une profession ou une certaine situation, on se rend compte qu'en fait, la plupart étaient dans une situation de recherche d'emploi et qu'ils ont rendu public cette recherche d'emploi, que ce soit sur un site internet, auprès de connaissances, et qu'on leur a proposé, imposé parfois, de se mettre en auto-entrepreneur pour réaliser le travail pour lequel ils avaient à la base envie de chercher plutôt un emploi. Et on leur a proposé de réaliser voilà, cette mission, plus ou moins temporaire ou plus ou moins pérenne, sous le statut d'auto-entrepreneur, qui devient quasiment une modalité d'embauche, pour le coup, on peut dire au rabais, puisque ce n'est pas une embauche, ce n'est pas de l'emploi. Et parfois, ça semble même être juste une modalité de rémunération. C'est-à-dire, tu fais ce travail, je te paierai en tant qu'auto-entrepreneur.
Si tu acceptes de le faire comme ça.
Si tu as, oui,
pas
sauf
autrement.
Que la plupart des personnes sont en situation sur le marché du travail aujourd'hui plutôt de faiblesse, hein, à part quelques professions. Et donc, elles acceptent. C'est comme
Bien
ça que j'ai fini par les rencontrer.
Alors, c'est vrai que jusqu'à ces années-là, et peut-être même jusqu'aux années 70, La figure de l'entrepreneur, de l'auto-entrepreneur peut-être, celui qui désirait monter une boîte parce qu'il était au chômage, était plutôt le travailleur qualifié dont on pensait qu'il serait capable de diriger du personnel, d'entreprendre, de monter un financement crédible, voilà. Or là, il y a un basculement, on s'adresse à des gens qui, a priori, comme vous l'avez dit, n'ont pas forcément ce désir et pas forcément les compétences non plus.
Quand on remonte sur le fil historique, comme on l'a fait au début, de revenir vers l'ACRE et les premières mesures des années 70, on voit que ces premiers dispositifs étaient vraiment destinés aux travailleurs qualifiés. C'était pour les cadres qui passaient au chômage, puisque quand même le chômage démarrait fort et touchait aussi en partie, même si beaucoup moins, les travailleurs plus qualifiés. Et il s'agissait d'inciter ces travailleurs qu'on estimait avoir un peu les épaules pour éventuellement monter une entreprise, de les inciter à basculer vers l'indépendance. C'est vrai qu'au fil des décennies, depuis les années 70, on voit une réorientation un peu des publics cibles de ces dispositifs vers des personnes de plus en plus appartenant aux classes populaires, c'est-à-dire aussi des personnes qui n'ont par exemple pas de patrimoine pour monter une activité. Donc on n'est plus sur le même profil d'indépendants. Les indépendants quand même ont une protection sociale qui est moindre que celle des salariés, mais qui est acceptée en partie par eux puisqu'ils ont aussi souvent un patrimoine. une boutique, un commerce, un patrimoine productif. Pour les chauffeurs de taxi par rapport aux chauffeurs VTC, par exemple, ils ont leur plaque qui coûte cher, qui pensent pouvoir revendre. En tout cas, maintenant, la situation est plus incertaine.
Ouais, ça a été plus dur après.
Et donc, c'est aussi une forme de stabilité et de sécurité que d'avoir ce patrimoine. Les nouveaux indépendants, qui sont plutôt ces travailleurs fragiles qu'on incite désormais à créer leur emploi ou créer juste en tout cas un petit complément de revenu ou un petit pouvoir d'achat, n'ont pas de capital. Donc, ils n'ont ni les protections du salariat, ni les protections de l'indépendance.
Deux idées derrière tout cela, semble-t-il. En tout cas, on parle toujours de ces années, mais on va arriver à la situation actuelle qui s'est évidemment tendue encore plus. Il y aurait quoi ? Une idée selon laquelle le travail coûte trop cher, donc il vaut mieux y faire face d'une autre manière, c'est-à-dire en responsabilisant, en fragilisant éventuellement, mais en responsabilisant le chômeur. Et la deuxième, c'est aussi une alternative à une logique de l'assistance. Vous voyez, vous ne serez plus assisté. Vous allez de vous-même assurer votre protection.
Oui, alors c'est sûr que ce dispositif, l'auto-entrepreneuriat, il est vraiment symptomatique d'une époque dans laquelle, effectivement, on va avoir l'idée beaucoup proclamée que les travailleurs coûteraient, alors, et en partie par l'ensemble des protections dont ils disposent, c'est-à-dire que toutes les responsabilités de l'employeur sont vues comme des contraintes pour les employeurs.
Et non et plus ce, comme quelque même... chose d'évident, comme ça avait été le cas au moment des années 40.
Oui, ça a pu être critiqué, c'est-à-dire c'est aussi un long travail idéologique mené par une partie aussi du monde capitaliste, quand même, ceux qui ont davantage intérêt à ce que les procédures de recrutement et la manière dont on traite ses salariés soient la moins coûteuse possible. Ils ont réussi à la faveur aussi d'un changement de rapport de force, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste des idées qui s'imposent d'elles-mêmes. Si on revient un peu à la logique marxiste, ce sont bien les conditions matérielles aussi qui font un moment un état du débat intellectuel. Et là, c'est vrai qu'ils ont pu imposer, parce que leur rapport de force leur est favorable avec un chômage de masse, ils ont pu imposer l'idée que le travail, finalement, était quasiment une contrainte, alors que c'est bien la source de la richesse des employeurs, le travail, mais ils arrivent à le présenter comme une contrainte. Et l'autre versant, vous le posez très bien dans votre question, c'est effectivement aussi de culpabiliser les chômeurs. Donc on utilise le fait qu'il y a un chômage massif et donc une armée de réserve pour pouvoir tirer les conditions de travail à la baisse. Et en même temps, on culpabilise quand même ces chômeurs de ne pas travailler. Et donc, ça permet aussi d'avoir une main-d'œuvre très peu chère, puisque finalement, les chômeurs constituent la main-d'œuvre la moins chère. On le voit, hein, il y a des enquêtes aujourd'hui aussi sur le fait que plus on pressurise les chômeurs, plus ils acceptent des salaires moindres. Et donc, on a aussi cette réserve de main-d'œuvre qui permet aux employeurs de tirer les conditions vers le bas, et tout en les culpabilisant de ne pas assez travailler.
Vous avez fait vous-même référence à Marx. L'intérêt de mobiliser Marx dans cette analyse que vous faites vous paraît là aussi assez évident, et vous le faites à plusieurs reprises dans vos travaux. Pour quelles raisons le mettez-vous en avant ? On parle nous ici de la fragilisation du capitalisme, faut-il le réformer, le détruire ? Et va-t-il résister au siècle ? Pourquoi Marx ? Parce que beaucoup de penseurs ont été avancés dans toute cette réflexion.
Oui, oui. Alors c'est sûr que...
Même s'il est, il paraît évident, naturellement. Mais
c'est ça. Il y a quelque chose qui reste de l'ordre d'une... Ce sont des écrits qui démontrent encore aujourd'hui une efficacité qui reste assez remarquable. Et donc évidemment qu'il s'agit aussi de se nourrir de tous les apports des travaux qui portent sur des phénomènes plus récents, qui décortiquent aussi des transformations contemporaines, que ce soit des travaux d'ailleurs d'histoire, de sociologie, d'économie, de philosophie. Enfin, on peut être nourri par plein de choses. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'il y a quand même une matrice chez Marx qui ne semble pas tout à fait dépassée, quoi, qui arrive quand même à saisir les effets du capitalisme de manière efficace. Et puis surtout, pourquoi revenir à Marx quelque part ? Bon, d'une part, vraiment parce que l'œuvre est assez peu datée pour beaucoup de choses. Elle permet de penser à la fois les phénomènes de répartition de la valeur, de l'ensemble des conditions sociales qui permettent à un système économique de se mettre en place. Donc comme ça, il y a des sortes de grandes logiques dans la manière de saisir comment le travail est pris dans un ensemble de transformations politique, dans un ensemble de transformations économiques, qui finalement est une matrice qui n'a pas trop de raisons de s'épuiser pour le moment. Il y a aussi plus spécifiquement une compréhension vraiment assez fine du fonctionnement du capitalisme et du salariat. Et puis peut-être, bon, c'est vrai, il y a aussi une revendication à le mobiliser, dans la mesure où peut-être qu'une partie des travaux et des réflexions sur le travail oublie un petit peu trop la question du système économique dans lequel ça prend place, et notamment de la question de la répartition de la valeur, assez simplement. C'est-à-dire que parfois, à être un petit peu trop dans des enquêtes auxquelles je participe aussi, hein, mais des enquêtes de terrain un petit peu spécifiques sur certaines professions, certains secteurs, Peut-être que parfois on oublie un petit peu, et ça c'est des questions aussi de méthode, d'évolution interne d'une discipline, on va regarder plein de petits objets, on oublie parfois un petit peu de recadrer l'ensemble du débat, c'est-à-dire de comprendre vraiment l'ensemble des rapports de force.
Et de, domination, pour reprendre le vocabulaire marxiste.
Oui, c'est ça. Alors, déjà la structure d'inégalité, un peu fondamentale dans un système économique, la manière dont on peut obtenir que les gens travaillent autant, ça, c'est des questions importantes chez Marx, l'étude comparée de... Parce qu'il n'étudie pas que le 19e, il fait une grande comparaison historique des grands modes de production avec l'époque antique où c'est l'esclavage qui permet de faire travailler une masse importante des individus. Puis sous l'époque féodale, c'est bien le système de servage qui assigne à tout un ensemble de la population la tâche de travailler, et ce travail sert essentiellement les intérêts d'autrui. Et ça, il y a quand même ce grand fil historique qui se maintient aujourd'hui pour les travailleurs. Et c'est vrai que retourner à Marx, c'est penser tout cet ancrage du travail, c'est-à-dire dans quel type de relation sociale prend place une forme de travail, avec quels intérêts politiques, avec quel système de pensée, puisque c'est aussi un penseur des formes d'idéologie, c'est-à-dire l'ensemble de ces constructions intellectuelles qui viennent soutenir un système économique, le justifier. Donc on a un petit peu toutes ces clés, et puis effectivement c'est ces rapports de domination qui est essentiel dans le travail, puisque aujourd'hui, voilà, avec cette idée par exemple que le travail coûte trop cher, on aurait l'impression que on rend presque service aux travailleurs en les faisant travailler. Revenir à Marx, c'est bien quand même se rappeler que le travail n'est pas rémunéré à la hauteur de ce qui est produit par ce propre travail, qui a des formes de valeurs supplémentaires qui sont accaparées. Si on ne comprend pas ça, on ne comprendrait pas pourquoi aujourd'hui, les 1% des plus riches détiennent 20% des richesses, pourquoi les inégalités augmentent, et en même temps, pourquoi les gens continuent à travailler, et presque parfois à revendiquer de travailler.
Et pourquoi les grands leaders des grands GAFA profite justement, on va parler dans un instant de la forme que prennent aujourd'hui tout ce que vous dénoncez là autour des nouveaux prolétaires, c'est-à-dire l'économie numérique, l'apparition de l'ubérisation, pour reprendre ce terme qui est maintenant dans le vocabulaire d'ailleurs, dans le dictionnaire, elle est apparue. Et donc on revient à cela et on montre comment les détenteurs de ces grandes firmes concentrent autant d'argent, enfin le 1% dont vous parlez largement, en faisant travailler les gens qui en gagnent le moins possible. Il y a quand même là quelque chose assez proche des idées de Marx, évidemment.
La première phrase que j'ai eue dans le dossier de candidature de Deliveroo, c'est la flexibilité. Donc je leur demande, est-ce qu'il y a possibilité de ne pas travailler vendredi, samedi, dimanche, pour m'occuper justement de ma famille ? On me dit oui, il n'y a aucun souci. Mais je me rends compte que j'ai ces trois jours-là, vendredi, samedi, dimanche, l'obligation de travailler de 20h à 22h pour ne pas baisser mes statistiques. Parce que chez Deliveroo, ce système de statistiques vous permet, si vos statistiques sont parfaites, et même pas bonnes, hein, parfaites, d'avoir un minimum d'heures chaque semaine. Pour être parfait, il ne faut aucun retard, interdiction d'être malade, bien sûr. Donc en fait, il faut être prévoyant. Si vous sentez que vous allez être malade dans 10 jours, il faut que vous le sentiez. Si vous le sentez mal, si vous arrivez à la dernière minute, bah malheureusement, vos statistiques vont baisser. Vous n'aurez pas la possibilité de prendre les pics. Et comme les pics sont obligatoires à travailler, et bah comme vous ne les avez pas pris, et bah vos pics ne vont pas monter, la statistique des pics. Donc c'est un engrenage. Donc vous avez des gens, mais c'est vraiment malheureux. Hein. Pour prendre des pics, je connais des personnes qui ont dû aller à Amiens, à Lille, à Rouen. Ils allaient jusqu'à là-bas par leurs propres moyens, parce que là-bas, il y a beaucoup moins de bikers. Et ils revenaient pour valider leurs pics. En fait, on travaille pour un algorithme. Mais vraiment, et cet algorithme-là, c'est votre patron. Ce patron-là, il vous oblige de travailler certaines heures. Et quand ce patron-là, vous lui dites « Mais vraiment, j'ai un certificat médical, je vais me faire opérer en urgence, j'ai quelque chose de grave », ce n'est pas pris en compte. On vous dit que vous êtes indépendant, qu'on ne gère pas tout ça. Mais je suis indépendant, mais vous m'obligez de travailler le vendredi, samedi, dimanche. Et ce cercle vicieux-là, il engendre quoi ? Une pression psychologique. Vous avez des bikers, carrément, ils se réveillent en pleine nuit parce qu'il a peur que ses statistiques aient baissé. Il se réveille, oh, non, mes statistiques, elles ont baissé. Et en fait, c'est un cauchemar. Deliveroo a un certain son dans sa notification. Il y a des personnes, quand ils entendent cette notification-là, mais leur tête, elle change. Ah mince, j'ai peut-être loupé un créneau. Ah mince, je suis peut-être plus à 11h. Ah mince. Mais c'est horrible, ça lui arrive sur la route avec son scooter ou son vélo, il va regarder son téléphone parce qu'il a une notification. Malheureusement, il y a une voiture qui est sortie ou quoi que ce soit. Et si vous avez une commande avec vous, bah, on va vous dire quel est l'état de la commande. Parce que quand vous avez un accident et que vous les contactez, avant de vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive, appelez les pompiers, est-ce qu'on peut vous aider ? Non, on vous demande l'état de la commande. Et de prendre obligatoirement une photo de la commande, qui est abîmée. Et si vous ne le faites pas, on vous déduit le montant de la course. Parce qu'il y a cet algorithme-là qui vous suit, qui vous surveille, qui vous donne certains ordres, et si vous ne les appliquez pas, vous ne pourrez pas travailler.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Et nous voici donc en 2019 avec ces nouveaux travailleurs des applis. On parle de Deliveroo, on parle de Uber, on parle de tous ces livreurs à vélo, à scooter dans les villes qui prennent pas mal de risques, on vient de l'entendre. Et nous avions emprunté cet extrait très fort à l'émission Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund qui passe chaque jour sur France Culture. Sarah Abdelnour, ce que vous avez entendu là, vous le connaissez et vous l'ont dit à vous aussi lors de vos enquêtes.
Alors moi j'ai...
Qu'est-ce que vous retenez dans ce qu'ils viennent de dire? Ouais. Moi je trouve terrible tout, oui. Y compris l'état de la commande.
Oui, c'est sûr que l'extrait est assez saisissant. Alors moi j'ai plutôt travaillé, donc on a tout un collectif de recherche à travailler sur les travailleurs des applis ou des plateformes. De mon côté, j'ai travaillé plus spécifiquement avec ma collègue Sophie Bernard plutôt sur les chauffeurs VTC, pour pas citer de nom de plateforme. On a des collègues, notamment Arnaud Mias, dans l'équipe, et puis d'autres chercheurs en ce moment qui travaillent sur les livreurs à vélo. Et c'est vrai que c'est assez fascinant. Il y a plusieurs choses très intéressantes dans cet extrait. D'une part, là aussi un peu l'illusion d'autonomie dans le travail, l'autonomie qui est beaucoup déjà rabattue sur la question quand même juste de la liberté des horaires. On parle pas d'une vraie autonomie. De liberté ou d'autonomie, déjà en général on n'entend que les horaires, puisque sinon le travail est très contraint, puisqu'il faut exécuter le travail d'une certaine manière, qu'ils n'ont pas de liberté dans le tarif par exemple de la prestation, alors que ça en général c'est quand même un élément déterminant du travail indépendant. C'est qu'on choisit, on fait des devis, on propose des tarifs, donc là ils n'ont pas le choix. Normalement la seule chose qui devrait leur rester, c'est la liberté des horaires, et on voit bien dans cet extrait, mais comme en parlant avec l'ensemble des travailleurs des applications, qu'en fait cette liberté horaire est extrêmement limitée, d'une part pour des contraintes économiques, c'est-à-dire qu'un chauffeur par exemple aujourd'hui, vu le prix qu'il paye sa voiture, qu'il l'est en achat ou en location, en fait obligé de faire beaucoup d'heures pour rembourser cette somme. Donc il y a déjà cette pression économique, les livreurs l'ont un petit peu moins avec leur équipement qui est quand même un petit peu moins coûteux, même s'il est à leur charge et pas non plus complètement anodin, mais aussi parce qu'il y a ce contrôle exercé par concrètement ce qu'ils voient c'est cet algorithme ou cette application, mais enfin il y a bien des décisions humaines
derrière.
C'est ça, pour organiser le travail, donc c'est des nouvelles formes d'organisation du travail.
Mais enfin comme ils disent eux-mêmes, c'est pas facile de faire grève face à l'algorithme, c'est pas facile d'aller protester contre un algorithme. On n'a pas passé toute l'émission, elle est passionnante, je vous la recommande. Mais ils le disent là aussi, qui vous joignez en cas de problème? Ils ont essayé de se fédérer à la personne que nous venons d'entendre. Mais à qui on s'adresse, comme on le sait tous, c'est quelque chose de complètement virtuel.
Oui. C'est délicat effectivement pour ces travailleurs qui sont atomisés géographiquement, qui circulent dans la ville, qui travaillent seuls, qui ont comme interlocuteur une interface de téléphone.
Alors, qui se rencontrent peu entre eux.
Alors qui à la base
sont
se rencontrent peu, qui sont en concurrence effectivement, voilà. D'autant que les applications ont tout intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de travailleurs, puisque ça permet pour le client de moins attendre sa course, sa voiture. Et donc, ils ont intérêt, et puis ça leur coûte rien en fait d'avoir des travailleurs, puisqu'ils sont auto-entrepreneurs, et que donc pour l'entreprise, ça ne coûte rien. Donc ils ont intérêt à avoir une masse de travailleurs qui circulent dans les rues, et donc ça fait une concurrence pour avoir les bonnes courses, des courses qui ne sont pas ridicules, hein, quand vous regardez les forums de discussion des chauffeurs. Ils ne cessent de publier des courses de montants ridicules, de distances ridicules, alors même qu'ils ont un temps d'approche qui n'est pas rémunéré. Donc en fait, ça fait beaucoup de temps de travail qui n'est pas véritablement payé. C'est difficile pour eux, pour toutes ces raisons, de s'organiser. Pour autant, on voit quand même, et ça se voit aussi dans les grandes villes, des espaces de rencontre. Des livreurs, par exemple, qui se rencontrent devant certains restaurants très courus, qui se rencontrent sur des grandes places à proximité des lieux de sortie. Des chauffeurs de VTC qui se rencontrent aux abords des aéroports, parce qu'ils passent beaucoup de temps à attendre des courses. Et donc,
c'est le seul endroit où ils peuvent à peu près se croiser, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Alors, ils ont quelques points de rendez-vous aussi, ouais. Des endroits où ils se restaurent en soirée, etc. Mais ça crée quand même des lieux de rencontre. Plus, évidemment, tous les échanges virtuels qui leur permettent aussi collectivement de construire une parole, d'échanger autour de leurs difficultés dans le travail, et puis progressivement, ce qu'on a vu pour les chauffeurs comme pour les livreurs, progressivement d'élaborer aussi une parole critique par rapport aux décisions, ouais, des plateformes, de critiquer les baisses de tarifs, enfin un ensemble de conditions qui se sont dégradées aussi au fil des années.
Oui, et qui commencent à s'organiser, on va y revenir un peu plus longuement. Restons pour l'instant encore sur leur situation, oui, et au départ de ces applis, présentées d'ailleurs y compris pour l'utilisateur. J'aimerais que vous nous disiez un mot de l'utilisateur, de celui qui passe commande d'une pizza alors qu'elle est en bas de la rue, juste au coin, oui, et qui ne se soucie pas trop qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ou que le livreur arrive fatigué ou avec un mauvais vélo, pas toujours éclairé, enfin j'en passe. Ouais. Que dit la sociologue aussi de ces comportements des consommateurs?
Alors nous, on a davantage travaillé au niveau du collectif, plutôt sur les travailleurs des plateformes que sur les consommateurs. Après,
ce que je veux dire, c'est que c'est le système qui induit cette situation. Quoi.
Oui, mais c'est vrai que la communication aussi autour de ces plateformes, si on regarde un peu, on l'a fait de manière non systématique, mais un petit peu regarder leur campagne de communication, on voit à la fois qu'ils promeuvent aussi une autre manière de consommer, c'est-à-dire ils promeuvent aussi ces petits cocons individuels. Alors on refuse le transport collectif, on est transporté tout seul, avec un petit peu la promotion d'un truc un petit peu luxueux, voilà, on aura quelque chose un peu de prestigieux parce qu'on est loin des autres, voilà, on est à distance des désagréments du collectif. Un peu de la même manière, les pubs sur la livraison de repas à domicile sont assez aussi saisissantes hein, sur un modèle de société, c'est-à-dire on fait son sport tout seul. Par contre, on n'a pas l'énergie d'aller sortir pour chercher quelque chose à manger ou pour manger dehors avec des amis. Il y a aussi un modèle comme ça qui est promu, effectivement, d'une consommation très individuelle qui se veut aussi un petit peu luxueuse par cette promotion de justement quelque chose qui serait protégé des désagréments de la société quasiment. Bon, voilà, c'est intriguant. On n'a pas enquêté là-dessus sur les pratiques des consommateurs. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en tout cas nombreux et effectivement qui n'ont pas l'air toujours de... Enfin, en tout cas, pour des personnes, par exemple, qui posent la question de est-ce que ces plateformes peuvent être remises en cause par des formes de boycott, quoi, de la part des consommateurs. Bon, c'est vrai que ça semble assez peu crédible parce qu'il y a un modèle de consommation...
On ne le voit pas apparaître pour l'instant.
Non. Les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour le moment.
Ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et je reviens donc à l'algorithme. Faire grève face à l'algorithme, c'est un des termes utilisés là par ce jeune homme que nous avons entendu dans cet extrait, mais par son essence même, l'algorithme, qu'il pleuve, que la demande augmente, qu'il y ait grève, que l'offre de travail diminue, car parfois il a 2-3 heures à faire, et bien entendu on ne gagne pas sa vie. L'algorithme, lui, fait froidement son travail à lui. Il fait en sorte que le client reçoive vite son burger au bacon ou autre chose.
Oui, avec quelque chose qui est encore un peu plus spécifique pour les chauffeurs VTC, c'est ces tarifs qui évoluent en fonction de la...
Ah oui, alors ça peut-être qu'on va raconter avec vous, mais brièvement, mais c'est ce que vous avez étudié. L'apparition, parce que c'est quand même un phénomène plus positif que tout ce que nous décrivons là, l'apparition d'une première contestation un peu organisée. C'est parti d'une baisse des prix ahurissante et brutale. Sans préavis, c'est bien ça. On parle des VTC à Paris. Hein.
Ouais. Alors là, ce que je mentionnais juste avant, c'était plutôt la question de la modulation des tarifs en fonction de l'offre et de la demande.
Pardon.
C'est-à-dire les moments, par exemple, si vous essayez de prendre un VTC la nuit du 31 décembre, vous aurez sans doute un tarif majoré x4. Effectivement, donc c'est aux horaires de pointe, au moment d'intempéries. Quand une ligne de RER est perturbée, enfin, c'est comme si, là aussi, on renonçait aussi à ce que les services publics de transport fonctionnent bien. Et puis, par contre, ces dysfonctionnements du service public permettent d'enrichir ces entreprises puisqu'elles ont ces tarifs majorés. Alors, il y a eu des cas de scandale, hein, en Australie, par exemple, au moment où il y avait eu une suspicion d'attentat, les tarifs pour récupérer un Uber avaient été multipliés par 4 et ça avait quand même fait scandale.
Moralement très choquant.
Voilà. Donc ça, c'était plutôt sur la question des tarifications dynamiques, comme ils l'appellent pudiquement. Après, sur la question de la contestation, elle s'est effectivement faite, comme la plupart des contestations de travailleurs, sur une question de rémunération, c'est-à-dire que...
C'était en 2015,
automne 2015. Uber annonce une baisse du tarif de la course minimum, suivront une augmentation des commissions et d'autres mesures qui vont détériorer un peu la rémunération des chauffeurs. Et c'est à l'occasion de ces premières déclarations, transformations en tout cas de politique, que les premières contestations vont se mettre en place. Il faut dire que ce n'est pas surprenant, hein, cette transformation des politiques, puisqu'en fait, à chaque implantation d'une nouvelle plateforme, elle va d'abord avoir des conditions de rémunération relativement généreuses.
Pour attirer les
attirer. Et relativement stables, c'est-à-dire avec des systèmes de primes, de bonus qui vont un petit peu lisser les revenus. On n'est pas strictement à la course. Et puis, une fois que la plateforme est implantée, elle va revenir à la baisse sur ces conditions. À chaque nouvelle arrivée de plateforme, c'est la même chose. Et donc là, c'est vrai qu'assez vite, une contestation s'est organisée. Il faut aussi dire, ça a l'air un peu spontané comme ça, c'est vraiment à l'annonce de cette baisse de la course minimum que les chauffeurs vont se réunir, d'abord devant le siège de Uber, puis ils vont bloquer la porte maillot, puis le périph certains jours. Pour autant, c'est pas si spontané, parce qu'il y avait quand même déjà des organisations professionnelles de chauffeurs. Hein. C'est auprès d'eux qu'on a mené l'enquête avec Sophie Bernard. Il y avait déjà, en fait, depuis quelques mois, des premières organisations professionnelles de chauffeurs qui vont tantôt se rapprocher, tantôt se distancier de syndicats de salariés, puisque bon, les relations sont un peu compliquées, ils s'y reconnaissent pas toujours. Mais
les syndicats traditionnels, oui.
C'est ça.
Ça a pris un petit peu de temps pour qu'ils se parlent.
Alors, la première organisation de chauffeurs VTC, elle apparaît au sein de l'UNSA. Ça s'est fait dès l'origine, par contre, avec l'idée que l'UNSA permettait plus d'autonomie pour des syndicats à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils se sentaient moins affiliés à une ligne générale confédérale. L'autre organisation professionnelle s'est rapprochée de Force ouvrière, donc là vraiment un syndicat de travailleurs plus classique, en tout cas dans une tradition ouvriériste plus classique. Bon, il y a clairement des tensions dans ces rapprochements entre travailleurs des plateformes et syndicats, des allers-retours, des formes de réticence, puis finalement des formes de réconciliation, puis à nouveau de temps en temps quand même des proclamations officielles aussi, des besoins de démontrer qu'il y a quand même un peu de distance, un passé qu'ils ont du mal à s'approprier directement pour un ensemble de raisons. C'est des profils qui peuvent être un peu différents. Il y a aussi plus de jeunes, plus d'immigrés. Ils se reconnaissent pas forcément dans l'histoire de la classe ouvrière. Ils ont d'autres grilles d'analyse pour penser les inégalités qui tient parfois à leur situation aussi d'immigrés. C'est-à-dire qu'ils vont souvent remettre en jeu l'injustice qui a été faite à leurs parents ou à leurs grands-parents venus travailler pour la France et qui se sont un petit peu tués au travail. Donc, ils ont d'autres grilles d'analyse. Ils métissent un petit peu de dénoncer l'exploitation des travailleurs, mais dénoncer aussi l'exploitation des migrants ou de...
Et les syndicats ont été un peu déstabilisés, entre guillemets. Enfin, en face, c'était pas évident pour eux non plus de s'adapter à leur...
C'est sûr que c'est un défi qui est posé aux centrales syndicales.
Leur contestation, oui.
Elles s'y intéressent pour travailler un petit peu sur ces formes de travail indépendant depuis quelques années. Je suis souvent sollicitée, par exemple, par les centrales syndicales. C'est-à-dire qu'elles essayent depuis un moment quand même de cerner qui sont ces travailleurs, comment s'adresser à eux, comment mieux comprendre leur situation et essayer de proposer des choses peut-être pour les stabiliser. Donc ce travail, il est clairement engagé, mais c'est vrai que les structures ne sont pas forcément appropriées aussi par les formes de travail de ces travailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas...
Et comme on l'a dit,
ils sont travailleurs indépendants. Ouais. Donc ils ne sont pas dans des fédérations sectorielles, ils n'ont pas de délégués du personnel. Donc je veux dire, ils sont aussi à l'écart. Eux ressentent parfois une difficulté à s'identifier au syndicat, mais enfin déjà, très concrètement, ils n'y ont pas accès aussi à ces protections et à ces formes de représentation du personnel.
Précisons quand même, Sarah Abdelnour, que même sur ces phénomènes d'ubérisation, on ne va pas citer trop toutes ces marques, mais enfin on les a tous en tête, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. La moyenne, je crois, c'est vraiment travailler 13-14 heures par jour quand il y a du travail, 7 jours sur 7 le plus souvent. Et avec tout ça, on obtient quoi ? Une rémunération un petit peu supérieure au SMIC, ça peut arriver. Mais il y a aussi ceux qui le font comme un complément, des étudiants notamment, que ça arrange bien, ou d'autres qui ont un autre métier, qui font ça en complément. On ne parle pas ici que d'esclaves du travail, si j'ose dire.
Là, ça va dépendre un petit
peu. Quelle est la proportion, là, dans ce que vous avez rencontré, de ceux qui sont contents de cette situation, voilà. En tout cas, qui sont satisfaits.
Il y a deux choses. Il y a la question d'un peu de leurs conditions objectives. Après, la manière dont c'est vécu sur les conditions objectives, c'est vrai qu'on a des situations assez différentes. Alors, pour les VTC, c'est relativement homogène, quand même, parce qu'en France, on a essentiellement un travail à temps
plein.
Donc,
chauffeur de voiture,
hein. Oui, ouais. Chauffeur de voiture pour application, parce que la plupart, certains avaient une clientèle privée, mais vu que de plus en plus, les gens passent par les applications pour avoir un chauffeur, en fait, la clientèle privée est de plus en plus difficile à maintenir. Et là, on a des conditions qui sont relativement homogènes. Vraiment, à part une petite frange qui continue à avoir une clientèle privée, c'est-à-dire aussi des courses bien mieux rémunérées, plus stables, ceux qui passent par les applications, pour la plupart, s'en sortent relativement mal. Ce qui permet de s'en sortir un peu plus, par exemple, c'est d'être propriétaire de la voiture. Mais ça veut aussi dire parfois qu'ils perdent de l'argent sans s'en rendre compte parce qu'ils calculent pas forcément l'amortissement. Enfin, mais quand ils possèdent la voiture, quand ils ont pu l'acheter au début, ça fait des situations qui sont plus confortables. On a par contre aussi, c'est vrai, des inégalités entre chauffeurs, puisqu'il y en a quand même aussi beaucoup qui travaillent pour d'autres chauffeurs. C'est un phénomène qu'on a quand même vu apparaître, nous on le voit dans nos enquêtes, c'est aussi apparu dans certains articles de presse,
notamment
il y a des chaînes de sous-traitance.
Notamment à des migrants sans papier.
Entre travailleurs, donc il y a aussi parfois un peu d'exploitation entre travailleurs, ce qui là aussi un peu un classique de l'histoire sociale. Au 19e aussi, on avait de l'exploitation entre travailleurs, ça s'appelait le marchandage, ça a été interdit. Et on retrouve un peu ces formes d'intermédiation du travail, que ce soit par les plateformes qui, elles, prélèvent des commissions très élevées, 25% en moyenne, hein, comme aussi par des chaînes de sous-traitance entre travailleurs, avec en bas de la chaîne, effectivement, souvent des migrants, des sans-papiers, les plus jeunes, qui se font souvent exploiter par les plateformes comme par d'autres travailleurs.
Le rôle de l'État dans tout cela, Sarah Abdelnour, on est clairement en train de contourner le droit du travail. C'est une stratégie qui permet effectivement de ne pas passer par les circuits traditionnels de protection. Le rôle de l'État, vous n'êtes pas loin de dire qu'il est complice. Ça va loin.
L'État a été, en tout cas, après un ensemble de décisions qui ont permis à cette situation d'émerger. C'est-à-dire que c'est quand même bien, par exemple pour les VTC, pour ces chauffeurs d'application, c'est bien l'État qui, d'une part, a pris la décision, après le rapport Attali auquel a participé Macron, par exemple, de déréguler le secteur des taxis, donc de l'ouvrir à la concurrence. C'est quand même bien ça qui a permis l'implantation des plateformes de VTC. Et puis, c'est aussi bien bien l'État qui, dans la loi, a passé ce statut d'auto-entrepreneur qui est quand même bien utile pour toutes ces entreprises. Il est évident qu'aujourd'hui, au sein de l'État, que ce soit au niveau du monde politique comme administratif, il y a bien des gens que cette situation peut choquer ou déranger. Mais il y a quand même eu ces décisions de politique publique assez fortes qui ont permis ces nouvelles stratégies d'entreprise.
Parlons de l'avenir, sur les quelques minutes qui nous restent, vous jugez plutôt positif que ces travailleurs commencent à s'organiser, à se structurer. Quelle serait la solution ? Il faut modifier le cadre, modifier la grille d'analyse sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Comment faire avancer cette génération de travailleurs indépendants qui ne devraient pas disparaître ?
Pour le moment, ce qui est en train d'arriver comme nouvelle orientation un petit peu, c'est quand même des décisions de justice assez fortes qui ont en partie requalifié ces travailleurs. Puisque, un ensemble de magistrats, que ce soit au prud'homme comme au niveau de l'appel ou de la cour de cassation même, ont reconnu que ces travailleurs finalement exerçaient dans un système organisé au service d'une entreprise, qui les contrôlait, qui les sanctionnait, qui les géolocalisait aussi, ça a été retenu quand même comme aussi une partie de l'argumentaire de la cour de cassation par exemple, et donc ont requalifié ces travailleurs qui sont formellement indépendants mais finalement très dépendants, les ont requalifiés vers le salariat.
Donc un phénomène qui se développe ailleurs. On le voit aux États-Unis, on le voit dans plusieurs pays européens.
Oui.
On les requalifie, on oblige les plateformes à les embaucher, à leur donner un vrai statut.
Oui, exactement.
Et ça, vous dites, juste pour conclure, que c'est en augmentation qu'on va vers ça,
ou que ça reste encore
fragile.
Il y a quand même un ensemble de décisions aux États-Unis, alors même voilà, dans le berceau de ces plateformes en Californie, il y a une décision assez forte du Sénat de reconnaître les travailleurs comme salariés. Et effectivement, pour la France, clairement, il y a un peu un basculement depuis un an environ, où les décisions de justice jusque-là estimaient que puisque les travailleurs pouvaient se connecter ou se déconnecter quand ils le souhaitaient, bon, ce qui est loin d'être tout à fait le cas, on l'a évoqué, mais que finalement on pouvait les considérer comme indépendants. À un moment, ils ont envisagé ça. Et puis finalement, maintenant, ils s'intéressent plus à vraiment ce qui se passe quand la relation est nouée, c'est-à-dire au moment où les travailleurs utilisent l'application. Et là, ils voient tout le système de contraintes et de surveillance et de sanctions qui s'exercent sur ces travailleurs. Et donc, c'est vrai que depuis un an, on a des décisions de justice qui ont plutôt basculé vers le salariat, ce qui permet quand même de remettre de la protection à ces travailleurs et puis de remettre des obligations aussi aux employeurs qui utilisent cette main-d'œuvre.
À quoi on peut ajouter, je voudrais qu'on termine sur une note d'espoir, une certaine réaction aussi des consommateurs, utilisateurs de ces plateformes. On sent quand même que la critique des pratiques fiscales, des pratiques légales de ces plateformes commence à monter en puissance. Mmh. Beaucoup de gens ne la supportent plus. On peut imaginer que cela irait dans le sens d'un meilleur traitement pour ces travailleurs.
C'est possible aussi. En tout cas, je pense que le débat public s'est ouvert autour de ces situations de travail et qu'effectivement, il y a un ensemble de pratiques qui sont jugées mauvaises de ces employeurs, que ce soit sur les conditions de travail de leurs travailleurs, mais aussi du fait qu'elles ne remplissent pas leurs obligations fiscales et sociales, qui heurtent et qui participent quand même de formes d'interrogation, voire de dénonciation de ces nouvelles manières d'organiser le travail.
Ce qui pourrait aussi inciter ces travailleurs à se retourner davantage vers l'État, qui était pour l'instant hors de cela, parce qu'au fond, ils savent bien que ces plateformes ne leur sont redevables de rien.
Les travailleurs, certains en tout cas, effectivement, misent... Alors, leur rapport à l'État, il est un petit peu ambivalent, parce que parfois, ils estiment que ça reste un meilleur interlocuteur que les plateformes. Ils ont un petit peu plus d'espoir.
C'est ça, ce que je voulais dire,
oui. Et en même temps, pour ceux qui ont participé aux négociations, ils ont estimé que précisément, l'État français était quand même un petit peu en situation de... se mettait lui-même en situation de faiblesse par rapport à ses gros acteurs économiques. Et ils étaient un petit peu déçus d'une résistance qu'ils trouvaient assez faible.
Et ils aimeraient que ça aille un peu plus vite, si on vous comprend bien. Merci infiniment, Sarah Abdelnour.
Merci.
Une sociologue donc pour traiter avec nous de ce nouveau volet du capitalisme. Va-t-il être soluble ou pas dans le 21e siècle avec ces nouveaux travailleurs des applis? C'est son tout dernier ouvrage, Sarah Abdelnour, avec Dominique Médal, l'ont dirigé, plusieurs contributions à l'intérieur. C'est paru dans la collection Idées de PUF, et puis comme nous en avons beaucoup parlé, et qu'il est excellent en plus, je voudrais vous recommander Le Nouveau Prolétaire, c'est paru chez Textuel, et Les Auto-entrepreneurs également, de l'utopie à la réalité. On met tout ça en ligne, bien entendu. Merci encore d'être venu nous trouver. Et merci à notre équipe de ce soir. Anne-Laure Chanel réalise, comme chaque série d'émissions que nous faisons, elle est en compagnie de Benjamin Vignal ce soir, et puis Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Justine Wild et Mélissa Foust pour la préparation, pour la documentation, pour nourrir aussi notre site franceculture.fr. Merci à elle. Très bonne soirée à tous.